Je vous remercie de cette rencontre que vous avez voulu organiser comme une sorte de dialogue. Vous avez voulu parler avec le pape. Et ceci est très important pour deux raisons. La première raison est que cette manière de faire nous renvoie directement au Christ. En lui, se déroule continuellement un dialogue. L'entretien de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Le Christ, vous l'avez entendu, est le Verbe, la parole de Dieu. Il est le Verbe éternel. Ce Verbe de Dieu, comme l'homme, n'est pas la parole d'un grand monologue, mais il est la parole du dialogue incessant qui se déroule dans l'Esprit Saint. Je sais que cette phrase est peut-être difficile à comprendre, mais je la dis quand même et je vous la laisse pour que vous la méditiez. N'avons-nous pas célébré ce matin le mystère de la Sainte Trinité? Et voilà la deuxième raison, qui est celle-ci. Le dialogue répond à ma conviction personnelle que être le serviteur du Verbe, de la parole, veut dire annoncer au sens de répondre. Pour répondre, il faut connaître les questions. C'est pour cela qu'il est bon que vous les ayez posées. Autrement, j'aurais dû les deviner pour pouvoir vous parler, pour vous répondre. L'Évangile tout entier et les dialogues avec l'homme, avec les diverses générations, avec les nations, avec les diverses traditions. Mais il est toujours et continuellement un dialogue avec l'homme, avec chaque homme, un unique, absolument singulier. En même temps, on trouve beaucoup de dialogues dans l'Évangile. Parmi ceux-ci, je retiens comme particulièrement éloquent le dialogue du Christ avec le jeune homme. Je vais vous lire le texte parce que vous ne vous les rappelez peut-être pas tous très bien. C'est au chapitre 19e de l'Évangile de Matthieu. Voici qu'un homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Il lui dit, « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Jésus reprit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui déclara, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. La réponse du Christ comprend deux parties. Dans la première, il s'agit d'observer les commandements. Ici, je ferai une digression à cause d'une de vos questions sur les principes que l'Église enseigne dans le domaine de la morale sexuelle. C'est votre 17e question. Vous exprimez votre préoccupation en voyant qu'ils sont difficiles et que les jeunes pourraient, précisément pour cette raison, se détourner de l'Église. Je vous répondrai comme suit. Si vous pensez à cette question de manière plus profond. Et si vous allez jusqu'au fond du problème, je vous assure que vous vous rendrez compte d'une seule chose. Dans ce domaine, l'Église pose seulement les exigences qui sont étroitement lié à l'amour humain, à l'amour matrimonial et conjugal vrai, c'est-à-dire responsable. Elle exige. Elle exige ce que requiert la dignité de la personne et l'ordre social, communautaire, fondamental. Je ne nie pas que ce ne soit des exigences. Mais c'est justement en cela que se trouve le point essentiel du problème, à savoir que l'homme se réalise lui-même seulement dans la mesure où il sait s'imposer des exigences à lui-même. Dans le cas contraire, il s'en va tout triste, comme nous venons de le lire dans l'Évangile. La permissivité morale ne rend pas les hommes heureux. Et la société de consommation ne rend pas les hommes heureux. Dans le dialogue du Christ avec les jeunes, il y a, comme je l'ai dit, deux étapes. Dans la première étape, il s'agit des commandements du décalogue, c'est-à-dire des exigences fondamentales de toute moralité humaine. Dans la seconde étape, le Christ dit « Si tu veux être parfait, viens et suis-moi ». Ce « viens et suis-moi » est un point central et culminant de tout cet épisode. Ces paroles indiquent qu'on ne peut pas apprendre le christianisme comme une leçon composée de chapitres nombreux et divers, mais qu'il faut toujours les lier avec une personne, avec une personne vivante, avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est le guide. On peut l'imiter de diverses manières et dans des mesures diverses. On peut, de diverses manières et dans des mesures diverses, faire de lui la règle de sa propre vie. Chacun de nous est comme un matériau particulier dont on peut, en suivant le Christ, tirer cette forme concrète, unique et absolument singulière de la vie qu'on peut appeler la vocation chrétienne. Sur ce point, on a dit beaucoup de choses au dernier concile en ce qui concerne la vocation des laïcs. Ceci ne change rien au fait que ce « suis-moi » du Christ, dans le cas précis, est et demeure la vocation sacerdotale ou la vocation à la vie consacrée selon le conseil évangélique. Je le dis parce que vous avez posé la question, la dixième, sur ma propre vocation sacerdotale. Je chercherai à vous répondre brièvement en suivant la trame de votre question. Je dirais donc d'abord, il y a 2 ans que je suis pape, plus de 20 ans que je suis évêque. Et cependant, le plus important pour moi demeure toujours le fait d'être prêtre. Le fait de pouvoir chaque jour célébrer l'Eucharistie. De pouvoir renouveler le propre sacrifice du Christ en rendant en lui toute chose au Père, le monde, l'humanité et moi-même. C'est en cela, en effet, que consiste une juste dimension de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi j'ai toujours vivant dans ma mémoire ce développement intérieur à la suite duquel j'ai entendu l'appel du Christ au sacerdoce. C'est « Viens et suis-moi » particulier.